Eh bien, mes amis, cette réunion n'était pas prévue, mais elle formera un complément au message que nous vous avons apporté pendant ce premier demi-camp. Et en ce samedi matin, 23 juillet, nous continuons quand même dans ce thème « Connais-toi toi-même » de rechercher ce que nous avons pu apprendre à la lumière du livre de Job sur ce sujet. Et le verset clé reste le même, et nous le récitons une fois encore, certains pour la dernière fois ici au camp, « Aux profondeurs de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu? Qui a été? Est-ce que nous pouvons vraiment dire ce matin de lui, par lui et pour lui? C'est une clé merveilleuse qui nous conduit à une délivrance totale. Si tout est de lui, si tout est par lui, et si tout est pour lui, nous devons connaître une vie chrétienne authentique. Pour Jésus, tout était du Père. Tout était par le Père. Tout était pour le Père. Et il ne devrait pas être autrement de celui en qui le Christ habite. Je ne dis pas des théories évangéliques, mais la personne du Christ, qui n'est plus extérieure à nos vies, mais que nous avons reçu et qui nous est devenu intérieur. Nous sommes habités. Et quelle que soit la confession dans laquelle nous avons vu le jour, confession chrétienne, nous savons et nous avons rencontré au cours de ce ministère qui est déjà assez long, des gens qui étaient habités par le Seigneur. On ne s'occupait plus de cet arrière-plan religieux, de nos étiquettes, mais on se rencontrait vraiment dans ce face-à-face avec le Seigneur, parce qu'on avait été les uns et les autres, à un moment donné de notre vie, placés au pied de la croix. Il n'y a pas deux croix, il y en a trois, oui. Mais celle qui sauve, c'est celle du milieu. L'autre reçoit le salut, l'autre refuse le salut. Mais pour nous, quand on a rencontré le regard du Seigneur sur la croix, qu'on a vu son agonie, alors on rentre en nous-mêmes. C'est quelque chose d'incroyable ce qui se fait en nous, de sorte que notre regard, ayant vu le regard de mon Sauveur, quand je regarde les autres, je les vois d'une toute autre manière. D'abord, je suis sûr qu'ils sont supérieurs à moi-même. Parce que quand j'ai vu ce qu'il a souffert pour moi, personnellement, eh bien, je me dis, c'est pour moi qu'il a le plus souffert. Alors, je peux regarder ceux qui sont à ma droite ou à ma gauche comme des frères. Ce n'est pas moi qui juge. Je me juge. Et j'aime. Dieu notre Père, tu nous as donné ton Fils qui n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Donne-nous donc d'avoir des vies qui sont à la louange de la gloire de ta grâce. C'est notre prière ce matin. Délivre-nous de tout jugement sur les autres. accorde-nous de nous accepter nous-mêmes et d'avoir affaire personnellement avec toi. Te laisser seul agir et diriger nos voies. Quel bonheur, quelle paix, quelle sécurité. Nous te donnons gloire, nous te louons, Seigneur, nous te bénissons. Tout notre être t'exalte. Oui, notre âme bénit le Seigneur. Et que tout ce qui est en nous bénisse son Saint-Nom. Notre âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Je vais encore vous rappeler ce matin le texte du jour que le Seigneur m'a conduit à prendre dans ces merveilleux passages du psaume 19, après vous avoir demandé si vous croyez vraiment que Jésus disait la vérité, quand dans sa prière, il affirmait à son Père que sa parole était la vérité et qu'il intercédait pour que cette parole nous sanctifie, c'est-à-dire nous sépare. Nous sommes encore dans le monde, mais par la prière de Jésus, par son action, par son œuvre, nous ne sommes déjà plus du monde. Il nous a identifiés à lui. Dans l'unité qu'il a avec le Père, nous sommes un avec lui comme il est un avec le Père, et nous sommes déjà un les uns avec les autres, avec ceux qui l'ont reçu. Cette unité chrétienne que l'on recherche tant dans certains milieux n'est pas à faire, elle est à manifester. Et la manifestation de cette unité de l'Esprit, eh bien, elle est vue quand les âmes aiment le Seigneur. Il n'y a plus de problème. Ou alors, nous n'avons que des faux problèmes. Voyez-vous, tout se résume dans l'amour. Et j'ai toujours aimé, dès ma jeunesse, cette parole de Jean de la Croix qui disait un jour, nous serons examinés sur l'amour. Ce sera très vite fait. As-tu aimé? C'est vrai. Car tout est résumé dans l'amour. Dieu est amour. As-tu aimé? Cette parole, nous l'avons lue. Elle est appelée dans les psaumes la loi, le témoignage, les ordres du Seigneur. Alors, je relis le texte. La loi du Seigneur, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, il rend sage les simples. Les ordres du Seigneur sont droits et réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il éclaire les yeux, la crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances du Seigneur sont vraies, elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin, et plus douces que le miel, même que le miel qui coule du rocher. Et alors, j'espère que vous en ferez aussi votre méditation. Qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce qu'elle est? Elle est parfaite. Elle est véridique. Elle est droite. Elle est limpide. Elle est pure. Elle est juste. Elle est douce. 7 points qui sont donnés là et qui forment un ensemble de perfection. Le chiffre 7 étant toujours celui de la perfection. Eh bien, il y a, qu'on le veuille ou non, 7 choses qui nous sont dites de la parole et vous pouvez méditer. Et alors, vous méditez aussi, qu'est-ce que cette parole opère? Elle restaure l'âme. Alors, je ne peux pas comprendre que nous ne marchions pas maintenant vers la restauration de nos âmes. Elle ne tue pas l'âme. Elle la restaure. Elle la rend sage. Elle ne l'embrouille pas. Elle la réjouit. Elle peut aussi commencer par nous attrister, parce que nous avons des choses dont nous devons nous juger. Mais quand même la parole nous attriste, c'est une tristesse dont on n'a pas de regret. C'est cette tristesse qui produit la repentance et qui nous amène à cette limpidité. Elle illumine les yeux. Elle est pour toujours, c'est-à-dire elle est normative. Elle est aussi vraie aujourd'hui qu'au jour de David. Je ne dis pas qu'au jour de Job, parce que Job vivait au pays des hommes sans Bible. Il vivait avant la promulgation de la loi donnée par Moïse, comme nous aurons l'occasion de le voir dans cette seconde semaine. Et cette parole, elle est vraie. Et elle est... On peut la croire, on peut y adhérer entièrement par la foi. Et puis, elle est une vraie richesse, la richesse de la parole. Est-ce que vous connaissez, est-ce que nous connaissons la richesse de cette parole qui a une puissance jusque dans nos os, jusque dans la moelle de nos os, pour nous renouveler, pour nous donner des forces qui ne sont pas des forces simplement naturelles, mais qui sont vraiment ce secours divin, jour après jour, heure après heure, et qui nous amène, non pas à dire comme tant d'hommes malheureusement, qui, après s'être donnés, après avoir fait soi-disant un effort, nous disent qu'ils sont crevés. C'était bien le moment que ça s'arrête, ou un camp. Bien, j'aimerais mieux ne pas avoir commencé que de vous dire à la fin du camp, heureusement que c'est fini, je suis crevé. Alors qu'est-ce que ce serait? L'aveu que je vous ai parlé avec mes propres forces, avec mes propres sources, et je ne donnerai pas gloire au Seigneur. Puis vous iriez dire que je suis un homme qui se donne, encore une fois, je vous le dis bien en québécois, misère à poil. Ce serait vraiment une misère toute nue si vous retournez avec ce sentiment. Et puis, qu'il n'y ait personne qui pense qu'il doit imiter un homme. Il y a eu ce danger dans certains camps, des jeunes qui venaient de se convertir, avaient, soi-disant, entendu dire que j'étais un homme qui me levait très tôt, bien avant l'aurore, pendant le camp, pour être dans la présence du Seigneur. Puis eux, ils ont cru qu'ils devaient faire la même chose. Alors, descendant de ma tour, à 3 ou 4 heures du matin, des fois, pour prendre un verre d'eau, eh bien, je voyais deux êtres qui étaient là avec leur Bible et qui grelottaient plus ou moins, ils avaient mis une couverture sur eux, puis ils s'efforçaient d'être devant le Seigneur et de lire. Puis qu'est-ce qui leur arrivait? Eh bien, pendant les réunions, ils dormaient. Bon, ils tapaient les clous, c'est tout ce que ça leur donnait, mais Dieu ne leur demandait pas du tout cela. Ils me demandaient cela à moi, parce que moi, j'avais une responsabilité spirituelle dans le camp, et je ne peux pas parler aux âmes sans avoir été dans la présence de mon Dieu, dans la présence du Seigneur, qui me parle à l'oreille, qui m'instruit. Alors, il faut que, quand il me réveille, je me lève et que j'écoute comme on écoute les disciples. C'est ainsi que le Seigneur m'a formé dès ma jeunesse. Alors, j'obéis à ce qu'il me dit, mais je ne dis pas que les autres doivent faire la même chose. Par exemple, Josaphat. Eh bien, Josaphat, à certains moments, il a dû se lever. Pourquoi? Parce que on était d'accord que ce bord de l'eau devait recevoir une amélioration. Il a eu ça à cœur, le Seigneur le lui a demandé, mais si vous vouliez faire les singes, on n'est pas sur la planète des singes au bord de l'eau. Vous l'auriez ennuyé. Comprenez-vous ? Le Seigneur ne vous demandait pas cela. Et puis moi, si je ne suis qu'un singe, et que vous voulez me singer, eh bien, c'est très humiliant. Nous ne sommes pas sur la planète des singes. Chacun a sa vocation. Et peut-être que le Seigneur, à beaucoup d'entre vous, il vous demandait de dormir. Et de vous reposer. Et c'est ça le message du salut. Repos. Détendez-vous. Dormez bien. Ne faites pas complexe. Finis ces histoires de complexe. Le Seigneur vous aime. Et il vous en donne autant qu'à moi, dans votre sommeil. Comme il peut m'en donner à moi dans mon réveil. Il me parle à l'oreille, oui. Mais à vous, dans votre sommeil, c'est cela que vous avez besoin. Et c'est cela que nous voudrions. Que vous ayez du repos. Et vous savez, j'ai vu plusieurs personnes, des gens qui travaillaient beaucoup, ils ont apprécié qu'au camp Mahanaïm, en dehors des réunions, ça pouvait être le repos. Ils n'étaient pas obligés d'être dans toutes les activités. Enfin, ils pouvaient dormir. Dormir et dormir encore. Je pense à un prêtre de Joliette qui était venu ici. Il était heureux. Ah, combien j'ai béni Dieu d'être dans un camp où on pouvait dormir. Parce qu'il était arrivé un peu crevé. Alors, oui, on est humain. Et il y a une fatigue physique, ça c'est vrai aussi. Eh bien, c'était le temps de dormir, il y a un temps pour dormir. Ce que j'ai remarqué, ouais, c'était assez frappant. Quand le Seigneur voulait me donner du repos, il me mena à l'hôpital. Puis le docteur qui me connaissait bien dès ma jeunesse, il me gardait un peu plus longtemps que les autres. Puis je me demandais toujours pourquoi. Ben, il disait, c'est ton repos. Et peut-être que ça m'a beaucoup aidé, cela. Mais, en même temps, dans la souffrance, en contact avec les malades, ça me renouvelait aussi dans ma vocation au service du Seigneur et de la compréhension de ceux qui souffrent. Parce qu'on est tellement oublieux et on a besoin d'être recyclé. Mais recyclé aussi par le Seigneur et à l'école du Seigneur, car nous continuons ce matin d'être à l'école de Jésus. Et alors, après avoir montré ce que nous avons dans la parole et ce qu'elle nous apporte, j'espère qu'elle vous a apporté cela ou qu'elle vous l'apportera dans cette semaine, il y a cette prière, et c'était ce verset que je vous laissais, « Ton serviteur est instruit donc par les préceptes, par tes préceptes, il y a un grand salaire à les garder ou... pour qui les observe, l'avantage est grand. Et je pensais à ceux qui auraient voulu partir. Mais vous auriez perdu un grand salaire. Si vous partez avant d'avoir touché le salaire que le Seigneur voulait vous donner par sa parole. Puis, qui connaît ses fautes involontaires ou ses erreurs ? Nous avons tous fait des erreurs dans notre vie, même depuis notre conversion. Que d'erreurs. Nous devons les reconnaître. Eh bien, nous voulons avoir l'humilité de reconnaître nos erreurs. Puis nous les confessons au Seigneur par leur nom. Quand nous lisons sa parole, cette parole me montre ce que je suis. Je vois mon tableau, mon portrait. Et alors, je vois ce qui n'allait pas. Mais il y a des fautes aussi cachées. Je ne vous dis pas de vous livrer à l'introspection. Ça, c'est maudit. C'est pas le chemin. Ce n'est pas de vous livrer à l'introspection, parce que si vous vous livrez à l'introspection, vous finissez par le suicide. Sortez de vous-même. Oui, il y a bien un rentrer en soi qui est nécessaire pour retourner à la maison du Père. mais une fois dans la maison du Père, eh bien, éclatez de joie. C'est la musique et les danses. Il est de retour, le Fils prodigue. Alors réjouissez-vous. Entrez dans ce festin que le Père lui-même vous a préparé sans vous avoir fait aucun reproche au sujet de votre vie passée. Laissez cette vie passée derrière vous. Ne retournez pas toujours à ce passé. La paix de Dieu couvre votre passé parce que le sang de Christ a expié toutes vos fautes. Et maintenant, vous êtes en état de grâce. Vous avez trouvé accès à la faveur dans laquelle nous sommes, nous dit l'apôtre. Pour le passé, nous avons la paix avec Dieu. Pour le présent, nous sommes les objets de sa grâce, d'une grâce surabondante. Et puis, quant à l'avenir qui vous inquiète, qui vous tourmente, mais croyez cette parole, qu'est-ce que nous avons dans l'avenir? La gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est le chapitre 5 des Romains, ces trois premiers versets qui sont merveilleux. La grâce et la gloire, le Seigneur les donne. Nous marchons vers la gloire. C'est à cela que nous avons été appelés. Eh bien, que nos vies manifestent déjà quelques rayons de cette gloire. Maintenant que ces choses cachées sont liquidées, alors la seule chose que nous avons besoin de lui demander, garde-nous de ces péchés commis par orgueil. C'est là la vraie version, la vraie traduction. Non pas garde-nous des orgueilleux, mais garde-nous de l'orgueil, garde-nous de ce péché que l'on commet volontairement. On est éclairé sur ce que c'est, puis on le fait quand même. Par exemple, si vous étiez parti, vous étiez peut-être poussé par l'orgueil. Eh bien, que le Seigneur vous garde de ce péché d'orgueil. Vous devez pouvoir faire face. Que le péché d'orgueil ne domine pas sur nous. Alors, vous serez intègre, innocent de graves péchés. Je reviens maintenant à Job. Je ne vous ai pas demandé de lire quelque chose parce que nous n'irons pas plus loin que ce chapitre 21. Mais j'ai quand même à cœur de vous donner un complément au sujet de ce que nous avons vu hier et durant toute cette semaine. Je ne pense pas même qu'il soit nécessaire de revenir sur les deux chapitres comme nous le faisions toujours, que nous avions vu la veille. Ces deux chapitres, vous vous en souvenez, contenaient le discours de Tsophar, le deuxième discours, est la réponse de Job. Mais arrêtons-nous seulement à la conclusion de la réponse de Job, où il souligne que ses amis, censés être venus pour le consoler de la part de Dieu, ne lui ont offert aucune réponse valable au sujet de ce qui le tourmente, ce pourquoi de ses épreuves. Il le dit. Pourquoi donc m'offrez-vous de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que tromperie, ou, selon une autre version, n'est que du vent. Donc, tout ce qu'ils ont dit n'a été que pour le vent. De sorte qu'à la fin du deuxième cycle, ou du deuxième débat, on n'est pas plus avancé qu'au moment où Job a maudit le jour de sa naissance. On n'est pas plus avancé qu'au chapitre 3, au chapitre 21.
Alors, est-ce qu'au terme du troisième cycle que nous allons commencer demain, il y a un troisième cycle, il y a un troisième débat, et il y a de nouveaux discours, Eliphaz demain soir, la réponse de Job à Eliphaz, puis ensuite Bildad et compagnie. Alors, est-ce qu'au terme de ce troisième cycle, Job sera convaincu et ses amis satisfaits de leurs interventions? Nous pouvons déjà le dire, non. Pour quelle raison? Eh bien, je voudrais simplement souligner cela. Les amis de Job, ils voulaient le convaincre qu'il avait péché, qu'il y avait quelque chose de caché en lui. Et il voulait faire sortir son péché caché. Et il voulait lui prouver qu'au fond, ses épreuves, c'était simplement ce qu'il subissait de la justice rétributrice de Dieu. Pour eux, Dieu est juste et il ne peut pas frapper un innocent. Ils n'admettent pas cela. Contrairement à ce que nous pouvons voir, à ce qu'on entend, pourquoi est-ce que Dieu laisse périr des innocents? Et c'est vrai qu'à nos yeux, ils ont beau dire « j'ai vu », mais ils n'ont rien vu. Ou alors ils ont voulu être aveugles. Et on ne justifie pas Dieu en disant des mensonges. Nous n'avons pas besoin de prendre la défense de Dieu quand on accuse Dieu de permettre le massacre des innocents. Mais eux, ces amis, ils s'en tiennent à leurs arguments qui viennent, soi-disant, de leur expérience. C'est pour ça que c'est très dangereux de vouloir convaincre les gens avec nos expériences. Elles sont peut-être valables pour nous. Nous faisons tous des expériences. Mais elles ne sont peut-être pas valables pour les autres. Alors, ce n'est pas toujours de nos expériences que nous devons parler. Ou de nos visions, nous avons eu une vision, nous sommes des visionnaires, nous sommes visités par des visions de l'esprit, attention. Ou alors, n'est-ce pas, ils s'en tiennent à ce qu'ils ont acquis de connaissances, ils ont une formation et ils s'en tiennent à leur science religieuse ou à des traditions. Les traditions des pères, qui ont leur valeur, certes, mais qui ne solutionnent pas tous les problèmes. Alors ça, c'est la position des amis de Job. Ils s'en tiennent à cela, et ils n'en démordront pas. Maintenant, de son côté, Job, lui, il se sait innocent, dont on l'accuse. Sa conscience, il le dira plus loin, ne lui reproche aucun de ses jours. Comment voulez-vous convaincre quelqu'un dont la conscience ne lui reproche aucun de ses jours? Lui ne voit rien dans sa vie qui était contraire à la sainteté, à la gloire de Dieu. Alors il n'est pas prêt à s'humilier devant eux, devant ses amis, ni devant Dieu, de choses qu'il n'a pas conscience d'avoir fait. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à s'humilier. Ou bien alors, comme on me l'a dit, dis-leur que tu t'humilies pour la paix des frères. Ah oui, c'est des conseils qu'on vous donne. Hein. Pour la paix des frères, tu leur dis que tu t'humilies, mais garde tes chaussures. Mais moi, je peux toujours m'humilier pour une foule de choses. Et j'ai toujours à m'humilier. Mais je ne peux pas m'humilier sur des convictions que le Seigneur m'a données et quand il m'appelle à un certain chemin où d'autres ne voudraient pas me voir, mais où je sais que le Seigneur me conduit, eh bien, je marche. Parce que ce n'est pas mes frères qui rendront compte pour moi. Quand le Seigneur me dira « à toi, j'avais ouvert cette porte, pourquoi n'y es-tu pas allé ?» Je dirai au Seigneur « mes frères ne l'ont pas voulu. » N'est-ce pas ? Adresse-toi à mes frères. Est-ce que vous répondrez pour moi ?
Alors tous disaient, non, vous répondrez pour vous-même. Alors laissez-moi prendre mes responsabilités. Comprenez-vous? Mais je ne peux pas dire que je m'humilie pour des choses où j'ai justement conscience d'obéir. Et il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Qui est-ce qui a dit cela? L'apôtre Pierre. Hein? Mais on est toujours dans le même monde. Alors, à force de vouloir l'humilier pour le sauver, et nous sommes des drôles de cocos hein, dans l'œuvre du Seigneur, nous voulons nous-mêmes amener les gens à la repentance, alors qu'il est dit que c'est Dieu qui la donne. Alors nous voulons les amener à la repentance. À force de vouloir les humilier pour les sauver, ses amis poussent justement Job à se justifier et à le conduire presque à accuser Dieu d'injustice. Ce sont ses amis, au fond, qui poussent Job sur cette voie. Que, est-ce qu'il y aurait peut-être une injustice de la part de Dieu? Lui qui n'avait rien dit au sujet de Dieu, qui fut inconvenant dans ses grandes épreuves, l'amener à penser que Dieu pouvait peut-être le tourmenter sans cause. C'est quelque chose de terrible. Eh bien, c'est tout ce que ses amis ont réussi de faire. Alors, donc, les positions sur lesquelles Job et ses amis se trouvent sont irréconciliables. Alors, je me pose une question. Que manquait-il au consolateur et que manquait-il à Job? Parce que c'est là, il faut en sortir. Pour qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, ces gens qui sont pourtant des amis, qui ont une grande connaissance les uns et les autres des choses spirituelles, qu'est-ce qu'il y a qui les empêche de s'entendre? Qu'est-ce qu'il manque au consolateur et qu'est-ce qu'il manque à Job? Eh bien, les consolateurs, ils avaient des connaissances sur Dieu. Et ils parlaient de Dieu, mais ils n'avaient jamais été réellement en présence de Dieu. Et c'est là, tout à fait. Vous avez entendu parler de Dieu. Vous avez entendu sa parole, vous l'avez cru. Alors vous êtes sauvés. Je ne mets pas en doute votre salut. Celui qui croit a la vie éternelle. Celui qui croit les paroles que le Seigneur dit, il a la vie éternelle. Mais, croire, c'est une chose. Mais avoir la vie en abondance, c'est un pas de plus. Et ce pas est absolument nécessaire. Les amis de Job étaient instruits dans les vérités concernant le Créateur, c'est vrai. Mais ils n'avaient jamais été eux-mêmes dans la présence de Dieu. Alors, pour vous en convaincre, prenez Jésus et faites une comparaison entre Jésus sur la terre et Job. Et les amis de Job. Cet homme Jésus, regardez-le auprès des pécheurs et des hommes dans la souffrance. Est-ce qu'il les jugeait? Jamais. Quand il était auprès des pécheurs, il ne les accusait pas. Il ne les mettait pas mal à l'aise. Au contraire, les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Les prostituées trouvaient un accueil auprès du Seigneur. Et pourtant, il était pur. Mais voyez-vous, mes frères et sœurs, ce n'est pas le contact avec les âmes qui vous souille. Comprenez-le une fois pour toutes. Ce qui nous souille, c'est de garder le péché dans notre cœur. et on peut très bien être versé dans les Écritures et garder le péché dans notre cœur. On peut très bien le dire, non, moi, ne m'approche pas, hein, tu es impur pour moi. N'appelez personne impur. Ou quand je vous entends encore dire de certains membres de vos familles que c'était que ce sont des païens, ou que vous-même vous étiez païens, etc. Vous, oui, dans un sens, quand on n'est pas au Seigneur, on a des idoles, c'est vrai, mais ce n'est pas parce que vous êtes né dans une certaine religion que vous devez dire que vous étiez païen. Vous devez bannir ce mot-là. Parce que si vous allez dire à vos parents qu'ils sont des païens, mais c'est absolument faux. Et il faut oser vous dire qu'il y a des mots qui doivent être retranchés de votre vocabulaire. Ce sont des gens qui ont été élevés dans la religion chrétienne, mais qui ont certaines connaissances, un certain degré de connaissance, mais il y a eu certainement dans les familles québécoises beaucoup de personnes qui avaient la crainte de Dieu. Et vous devez reconnaître cela. Et d'abord, être reconnaissant envers vos parents, si vous en avez eu, eh bien, de vous être occupé de s'être occupé de vous. Et puis, tâchez de vous occuper d'eux quand ils seront âgés. Car celui qui ne sait pas montrer sa piété envers les gens de sa maison, ben lui alors c'est un païen, même s'il est évangélique. Il est même pire qu'un païen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et je n'essaye pas de me faire aimer. Mais je vous dis, je vous aime assez pour vous dire ces choses. Parce que vous avez un tas de problèmes, peut-être de famille, et qui pourraient disparaître si vous aviez une autre attitude. Cette attitude d'humilité et de cesser d'être des accusateurs qui mettent déjà tous leurs ancêtres dans les flammes éternelles, ou qui nous disent depuis 250 ans que mes ancêtres sont au Québec, je suis le premier sauvé. Moi, ça me brise les bras, et même les jambes. Ça me fait mal au dos. Pourquoi avoir cet esprit de jugement? Dieu jugera les hommes d'après les connaissances qu'ils ont pu avoir. Ils n'ont peut-être pas eu l'assurance du salut, mais je vous le répète, ce n'est pas l'assurance du salut qui vous sauve. Vous pouvez prétendre avoir l'assurance du salut et être perdu. Ce qui vous sauve, c'est le salut. C'est l'œuvre que le Christ a accomplie, une œuvre qui est entièrement accomplie en dehors de vous. Et c'est lui que vous devez regarder. Alors, faites une comparaison entre l'attitude de Jésus au milieu des pécheurs et l'attitude des amis de Job. Jésus ne jugeait pas. J'aime relire cette fin du chapitre 3 de Jean qui m'a tellement influencé à l'âge de 13 ans, au moment de ma conversion, quand il est dit « Il ne vint pas juger le monde. Je ne suis pas venu pour juger le monde. » On chantait un petit cantique. « Il ne vint pas juger le monde. Il vint sans nous blâmer, nous sortir de la nuit profonde. » Et on chantait « Quand nous l'appelons Sauveur, oui, c'est son nom. » C'est son vrai nom. Et on était dans la joie. Et on désirait le servir. Peut-être qu'on avait fait des plans que le Seigneur allait démolir, parce qu'il voulait nous apprendre que lui a un plan, et que ce n'est pas selon nos pensées que nous allons le servir, mais selon ses pensées et selon ses voies. Et quand on arrive à pouvoir dire non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, que ta volonté soit faite, eh bien, c'est le premier pas. Notre volonté est brisée, elle est soumise à celle du Seigneur, et c'est ainsi que nous entrons dans la joie. Parce que la volonté de Dieu, contrairement à la nôtre, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Tandis que notre volonté propre, elle nous conduit bien souvent aux échecs. il y a des voies qui sont droites à un homme et des voies de mort en sont la fin. Souvenez-vous du livre des Proverbes. Donc, je le répète et Josaphat l'a remarqué et l'a souligné, les amis, en accusant Job, qu'est-ce qu'ils faisaient comme œuvre ? L'œuvre de Satan, qui est l'accusateur. Il s'identifiait à l'accusateur qui cherche justement à vous accuser les uns les autres.
Alors, de son côté maintenant, Job, ben, il était un homme parfait, droit, craignant Dieu, se retirant du mal. Dieu pouvait l'appeler son serviteur, titre qu'il ne donne pas à n'importe qui, je le souligne. Deux fois, il l'a appelé son serviteur dans le prologue qui nous a occupés. Il était un saint homme. Cependant, lui aussi ne s'était jamais trouvé dans la présence de Dieu. C'est cela que nous devons comprendre. Ni ses amis, ni lui ne s'était trouvé réellement dans la présence de Dieu. Comme Jésus, qui tout en étant sur la terre, se trouvait, comme il le dit, dans le sein du Père. Le Fils de l'homme qui est dans le sein du Père. Il était sur la terre, mais en même temps, il était dans le sein du Père. Il était constamment dans cette présence de Dieu, de son Père. De qui parlait-il ? De son Père. Toute sa louange était pour le Père, il ne s'attribuait aucune conversion. Il disait que nul ne venait à lui sans que le Père ne l'ait attiré. Il disait que ce n'était pas ses œuvres, que ce n'était pas sa puissance, mais que c'était les œuvres du Père, la puissance du Père, la puissance de l'Esprit, alors que ses adversaires attribuaient cette puissance qu'on ne pouvait pas nier, ils l'attribuaient à qui ? À Satan, à Belzébul, à Satan. Voilà jusqu'où ces hommes qui avaient devant eux le Seigneur et la manifestation de tout ce qu'il était, le reflet du Père, l'image du Dieu invisible, eh bien, Satan avait aveuglé, avait mis un voile sur les yeux des pécheurs de son temps pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de la gloire de Dieu qui était manifestée sur la face de Jésus. Et parce qu'il était dans cette communion complète avec son Père, Jésus a pu tout endurer de la part des pécheurs. Il a pu tout supporter dans le silence. Il a reçu tous les coups de la justice divine. Vous ne voyez jamais un moment de révolte dans la vie du Seigneur. Alors que chez Job, nous avons un révolté par moment. Il est dépassé. Vous n'avez jamais, dans la vie de Jésus, une parole. Pourtant, il s'est fait homme. De cette condition divine dans laquelle il était de toute éternité, eh bien, il a abandonné cette gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût, et il s'est abaissé, il s'est humilié, il s'est anéanti, et il a été trouvé ici-bas en figure comme un homme, quoique sans péché, mais soumis à toutes les conséquences du péché. Et jamais sa puissance divine, il ne l'a employée pour se soulager lui-même. Quand le tentateur lui a dit « transforme ces pierres en pain », il a refusé d'employer sa puissance pour se soulager, alors qu'il aurait très bien pu faire de ces pierres des pains. Mais il n'a rien à faire avec le prince de ce monde. Il a résisté à tout. Et il a enduré la croix, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Lui, il s'était dépouillé de sa gloire. Il n'a pas cherché a conservé son image de Marc. On le voyait défait, abattu, plus que celui d'aucun homme. Ésaïe 52. La fin du chapitre 52 d'Ésaïe, puis Ésaïe 53. Il s'était dépouillé de sa gloire. Il n'avait ni forme ni éclat. Il n'avait rien pour attirer les regards. Alors que maintenant, nous voulons attirer les regards. Et même pour attirer les regards des soi-disant incrédules, pour faire de l'évangélisation, on en arrive à se grimer. C'est incroyable. C'est aveuglement chrétien. Vous voulez représenter Jésus en faisant les guignols? Vous voulez revenir au Moyen-Âge, jouer les mystères? Moïse, lui, il n'avait pas besoin de laver son visage. Il le voilait seulement, parce que son visage rayonnait. Et lui, il ne le savait pas. Il ne cherchait pas à se montrer. Lui qui était riche, il a vécu dans la pauvreté afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Heureusement que les anges n'ont pas de moteur. Pourtant, ils nous observent. Vous êtes conscient que les anges nous observent? Tout le ciel nous observe. Bien, il était riche. Et il a vécu comme un pauvre, mais dans sa pauvreté, il enrichissait les âmes. Et voyez-vous, sa nourriture, il nous le dit, c'était de faire la volonté du Père et d'accomplir son œuvre. Alors, ce que Job ignorait, vous savez que c'est ça la clé, ce que Job ignorait, c'était la grâce de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Il avait conscience de la justice de Dieu. Il savait ce qu'était le bien et le mal. Il faisait le bien. Mais il ne savait pas que c'était par la grâce de Dieu qu'il faisait le bien. Il n'était pas conscient de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi il s'attribuait la force d'avoir tout supporté, ses épreuves, mais il ignorait que c'était par la grâce de Dieu qu'il avait triomphé. Dieu l'avait fait triompher dans sa grâce. C'est par la pure grâce de Dieu que Job avait triomphé. Mais ça, il ne le savait pas. Et il pensait, n'est-ce pas, que ça venait quand même de sa piété, de sa justice, de son intégrité. Et il pensait que Dieu était contre lui, alors qu'en réalité, qui était contre lui? Satan. Satan. Et il attribuait à Dieu les flèches qui le transperçaient, alors qu'il s'agissait, comme le dit l'Écriture, des dards enflammés du malin. Ces flèches qu'il attribuait à Dieu ne venaient pas de Dieu lui-même, mais de Satan, qui, n'ayant pas pu le vaincre par de terribles épreuves, par cette succession d'épreuves, Satan avait perdu ces deux premières manches, alors Satan employait les amis de Job pour essayer, et eux n'en étaient pas conscients que Satan les employait pour cela, à le faire sortir de sa véritable dépendance de Dieu. Ce Job, souvenez-vous de cela, il vivait avant que la loi ait été donnée par Moïse. De sorte qu'il ne connaissait pas la loi de Dieu, il avait la connaissance des lois naturelles, ça c'est vrai, mais la loi, les 10 commandements n'avaient pas encore été donnés, mais il avait cette connaissance qu'avaient les descendants d'Adam, et surtout depuis Seth, qui était le remplaçant d'Abel, et Enos, cet homme duquel il est dit qu'après sa naissance, c'est à ce moment-là qu'on commença d'invoquer l'Éternel. Et alors, c'est Abraham, c'est ce Job, était donc un de ses descendants de Noé après le déluge. Et vous le savez, que depuis la chute du premier homme, une certaine connaissance du Dieu créateur avait été conservée à un tel point que même un Enoch, il est dit que après avoir vécu 65 ans, il y a eu quelque chose dans sa vie qui s'est passé, et depuis l'âge de 65 ans, il a commencé à marcher avec Dieu. Combien d'années? 300 ans. Et puis, c'est le seul qui n'a pas passé par la mort, il ne fut plus parce que Dieu le prit chez lui. Il a marché avec Dieu. Alors, quand on marche avec Dieu, à un moment donné, le Seigneur nous dit, pourquoi est-ce que tu retournerais à ta maison? Tu es plus près de chez moi que chez toi. Puis il nous prend. Il le prit avec lui et il ne fut plus trouvé. C'est merveilleux. Et ça nous annonce un autre enlèvement pour ceux qui l'attendent et qui marchent avec lui. Il y avait aussi Noé, il est dit qu'il était parfait parmi les hommes de son temps. Et il a manifesté sa foi, par quoi? Par son obéissance. Donc la foi n'est pas une aventure. C'est tellement faux ces expressions, la foi est une aventure, l'aventure de la foi. On essaye, n'est-ce pas, d'exciter votre chair à vivre cette grande aventure de la foi. La foi n'est pas une aventure. Elle n'a pas été une aventure pour Abraham, mais une obéissance. Abraham partit ne sachant où il allait. Mais il avait entendu la parole du Seigneur lui disant, sors de ton pays et de ta parenté. Et à toutes les étapes de la vie d'Abraham, Dieu se trouvait là. C'est ça qui est merveilleux. Dieu n'est pas en retard. Je vous ai dit, c'est des fois le dernier quart d'heure qui est le plus difficile à supporter, mais vous pouvez être sûr que le Seigneur n'est pas en retard. Quelquefois, c'est nous qui avons pris un peu d'avance, et il faut savoir attendre. Alors, s'il tarde, attends-le. On va trouver ce verset dans Job, mais plus loin. Alors aujourd'hui, pourquoi l'histoire de Job nous a-t-elle été conservée? C'est là la question. Parce que vous ne pensez pas que Dieu a voulu vous raconter une histoire, il était une fois. Une histoire un peu légendaire. Il y avait au pays d'Outh, etc. C'est pas cela. Si l'écrit de Job, comme il l'avait espéré, nous a été donné et qu'il ait été mis comme un donjon, disons, au centre de la Bible, Dieu avait ses raisons. Parce que, à l'école de Jésus, Dieu voulait nous apprendre à nous connaître et à le connaître. Voyez-vous, on peut être sauvé, on peut avoir le salut, mais c'est autre chose de l'avoir vu, lui, le Seigneur. Et de vivre en lui, non d'après des dogmes justes, mais vivre de la vie d'une personne. De sorte que Job devient, et ça c'est un des aspects de cette étude que je voudrais que vous reteniez, Job devient, puisqu'il y a 70 au moins interprétations qui ne doivent pas se contredire dans chaque texte selon les rabbins juifs, eh bien, Job est le portrait du croyant, oui, sauvé par grâce au moyen de la foi. Et nous avons la position de Job, mais dans une autre économie, dans l'économie de la grâce, nos bénédictions ne sont pas des bénédictions terrestres, mais des bénédictions célestes. Et c'est cela que vous devez comprendre. Mais nous sommes autant bénis que Job dans les lieux célestes. C'est Éphésiens chapitre 1er. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Vous êtes les Job de l'économie nouvelle. Et vous êtes, vous aussi, bénis de toute bénédiction. Parce que le Seigneur vous aime et lui, par sa grâce, veut vous voir intègre, droit. Vous séparant du mal. Et il vous a béni de toute bénédiction. Et même si Satan rôde autour de vous comme un lion rugissant, Satan lui-même constate que le chrétien est un homme qui est environné d'une haie de protection, comme il constatait cela déjà du temps de Job. Tu l'as environné d'une haie de protection. Le croyant se trouve au centre d'une protection merveilleuse. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, voilà, irréprochable. Comme Job, il n'y en avait pas un comme lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et vous continuerez de méditer là-dessus et de prendre aussi 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. » Mais vous le croyez? Pourquoi est-ce que vous avez peur que hors du camp ça ne marche pas? Voilà ce que Dieu vous dit. Vous avez dit que vous croyez les paroles du Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui a inspiré ses apôtres et qui, par le Saint-Esprit, nous a donné ce complément des évangiles. Parce qu'il avait encore beaucoup de choses à dire à ses disciples, mais il ne pouvait pas les supporter. Alors il leur dit, « Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. » Non pas pour nous parler toujours de lui. Le Saint-Esprit ne nous parle pas de lui. Il nous parle du Seigneur. Il met le Seigneur en avant. C'est là qu'on voit si c'est vraiment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il donne la gloire, non pas à la chair, non pas à l'homme, non pas au prédicateur. Le Saint-Esprit nous met dans la mort, mais il met Jésus sur le trône. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Donc vous voyez que le salut par la foi, c'est un salut dynamique. On est sauvé par la foi et pour la foi, pour vivre une vie de foi. Le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on met dans sa poche. Le salut, c'est quelqu'un. Mes yeux ont vu ton salut, disait Siméon, en ayant l'enfant dans ses bras. Ce salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors vous voyez, voilà maintenant toute une nouvelle piste de réflexion que vous allez défricher pour en faire une large avenue, et vous allez contempler vraiment ce que peut être votre vie et la sécurité que vous avez en Christ. Oui, j'aime à le souligner, Job est le portrait du croyant, sauvé par grâce, au moyen de la foi, béni de toute bénédiction, mais ayant un ennemi, parce qu'on est encore dans le monde, et Satan rôde autour de nous, il continue de courir ça et là, et de se promener sur la terre, et surtout vers les chrétiens qui marchent bien, vers les chrétiens qui sont fidèles. Et alors, il se présente aussi dans les lieux célestes. Est-ce que Dieu a parlé de vous, là-haut? D'où viens-tu, Satan? Du Québec. Tu vas au Québec? Oui, je vais au Québec. Il y court. Jusqu'à la baie de James. Et alors, il va nous accuser. Puis on va peut-être avoir une épreuve. Mais on ne sait pas qu'elle vient de Satan. On devrait être plus au courant que Job. Parce que nous avons le livre de Job. C'est évident que Satan n'a pas changé, il est toujours Satan. Et pourquoi est-ce que nous aurions peur? Cessez de vous regarder vous-même. Comprenez que votre conversion n'a pas changé votre nature. Nous avons reçu une nouvelle nature, mais la vieille, elle est là. Mais nous n'avons plus à vivre selon la vieille nature. La vieille nature, elle doit être dans la mort. Mais la chair, elle est toujours là. Et le péché, dans la chair, tant que nous sommes dans ce monde. Alors voilà, maintenant je sais que la chair est faible. C'est toute l'Écriture qui nous le dit. Et c'est toute l'Écriture qui nous dit que le péché est dans la chair. Je sais qu'en moi, il n'habite point de bien. C'est pourquoi j'ai essayé de vous brosser ce tableau des choses dont nous devons être absolument sûrs hier. En vous donnant les 7 certitudes. Les 7 je sais. Il y a des choses sur lesquelles nous devons dire que nous les ignorons, la connaissance ne nous est pas donnée sur ces choses-là, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais puisqu'elles sont à lui, nous sommes en paix, lui connaît les pensées qu'il a à notre égard, nous n'avons pas besoin qu'il nous dise tout, à chaque jour suffit sa peine, demain sera en souci de lui-même, mais sur les choses qui doivent nous donner de la joie, et la sécurité, nous sommes au courant. Nous devons avoir des certitudes, et je ne vais pas vous les répéter, vous les avez notées peut-être, si cela vous intéressait, mais pas intellectuellement seulement, mais pour vous-même. Vous avez commencé par l'assurance du salut, et puis vous savez que à la fin de votre course, vous pourrez dire, je sais qui j'ai. Tout ce que Satan peut faire, peut-être de nous, peut-être des martyrs, oui. Mais tout ce qu'il pourrait faire, c'est de nous faire brûler nos corps. Hein. C'est tout ce qu'il peut faire. Peut-être que nous serons atteints dans nos corps. Mais il ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Alors, nous allons terminer. Vous avez peur de tomber maintenant, après avoir connu ce que le Seigneur peut être pour vous? Souvenez-vous de ce que je vous disais ce matin au sujet de Judas. Judas, ce qu'il a perdu, c'est qu'il cherchait une occasion contre Jésus. Vous allez sortir du camp. Et vous allez chercher une occasion pour livrer Jésus. La différence entre Judas et Pierre, c'est cela. Judas ne s'était jamais jugé de ses tendances, ce qu'on appelle maintenant tendance, hein. Mais c'était le péché. Qu'est-ce qu'il était ? Avare. Et son avarice l'a coulé. Il a toujours pensé que Jésus pourrait s'en tirer. Il s'en était tiré tant de fois. Et il a joué avec Jésus. On ne joue pas avec Jésus. Et ça ne s'est pas terminé comme il le croyait. Alors, au lieu de revenir à Jésus et de s'humilier, il est mort dans son péché. Son orgueil l'a perdu. Et mourir dans son péché, c'est quelque chose de terrible. Tandis que Pierre, il n'a pas cherché une occasion, il n'a pas cherché à tromper Jésus, il n'a pas cherché à renier Jésus. Il a été pris par surprise. Comprenez-vous ? Tout ce qui peut vous arriver, c'est d'être pris par surprise, si vous ne vous défiez pas. Et au fond, Jean lui a rendu un drôle de service, un mauvais service. Parce que Pierre n'aurait pas dû entrer chez le souverain sacrificateur Caïphe. Jean, lui, il était connu du personnel du souverain sacrificateur. Et Jean, par amitié pour Pierre, lui donne le mot de passe et fait entrer Pierre. Mais si Pierre avait été dehors, ben il n'aurait pas été dans cette épreuve-là. Et Jean, voulant rendre un service à Pierre, voulant être gentil à Pierre, le place sur un terrain glissant. Et voilà la petite servante qui vient, et puis il n'est pas capable de résister. Mais le Seigneur avait prié pour lui. Le diable a demandé à vous cribler comme on crible le blé. Mais j'ai prié pour toi. Et voyez-vous, Dieu, dans son amour pour Job, avait donné à Job la grâce de traverser ses épreuves. Mais Job ne le savait pas. Il pensait qu'il y était arrivé au fond. Et il fallait qu'il apprenne dans cette longue école de la souffrance qu'il n'y avait en lui rien de bien et que s'il était intègre et droit, que cela ne venait pas de lui mais que ça venait de Dieu. Et vous, si vous avez un bon témoignage, si l'Église rend un bon témoignage, si les chrétiens rendent un bon témoignage de vous, ne vous glorifiez jamais. C'est la gloire du Seigneur. C'est lui, lui et lui et encore lui, et jamais vous. Alors évidemment, ce n'est peut-être pas assez intéressant pour nous. Pierre a été surpris par la faiblesse de la chair. Il ne savait pas encore. Et Dieu veut que nous apprenions à nous connaître. Et quand on se connaît, on n'a plus peur des ennemis du dehors, mais on veille sur l'ennemi du dedans. Parce que c'est nous, notre propre ennemi. Et souvenez-vous de ce que Job disait, non, vous ne pouvez pas vous en souvenir, enfin vous le savez peut-être parce que vous avez lu le livre de Job, mais c'est dans le chapitre 29, Job nous dit ce qu'il ressentait auparavant dans le temps où tout allait bien pour lui. Et nous raconte le sentiment qu'il avait quand j'entrais dans une assemblée, l'œil qui me voyait me disait bienheureux. Hein? Il a dit au Seigneur, laisse-moi le temps d'avaler ma salive. Il l'avait tellement avalé avant. Il salivait. Son prestige. C'était fantastique. Laisse-moi le temps d'avaler ma salive. Bien oui, mais vous verrez, tout à coup, cette racine qui va se montrer dans le cœur de Job quand il parle de lui. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Puis quand il a été dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu, mon œil t'a vu. Et je me repens dans la poussière et dans la cendre. Est-ce que vous en êtes encore à ce sentiment, l'œil qui me voit, l'œil qui me voyait? Ou bien est-ce que vous avez été dans la présence de Dieu? Bien, nous voudrions que vous ne soyez plus préoccupés par votre apparence, votre piété, votre foi. Que vous ne soyez plus préoccupés ou désireux de maintenir votre image de marque, mais désireux de voir son image et d'être rassasié de son image en contemplant sa perfection, ses perfections. Alors vous serez transformés en la même image. Et nous voudrions que ceux qui nous quittent aujourd'hui puissent quitter ce camp dans la louange. Et mon vœu pour ceux qui restent, c'est qu'ils puissent accueillir les nouveaux arrivants dans la joie que donne une vie brisée et humiliée. Dieu ne résiste pas à celui qui est brisé et humilié. Il ne résiste qu'aux orgueils. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Alors, laissons-nous briser par le Seigneur et nous serons heureux. Amen. Avez-vous une question? Oui, mais les Arabes aussi sont des sémites. C'est les cousins. Hein? Oui, oui, Job était un Arabe. On va le voir. On le voit déjà, d'après le pays qu'il habitait. N'est-ce pas? Et alors, justement, je n'ai pas voulu commencer par des discussions sur son origine, n'est-ce pas? Mais c'est un Arabe. Mais, vous voyez, j'ai voulu qu'on ait d'abord la connaissance du livre de Job. Et puis, alors, après, on arrivera à des conclusions sur ces questions. Mais d'habitude, quand vous prenez des commentaires, on vous dit c'est ceci, c'est cela, n'est-ce pas? Mais vous ne l'avez pas lu. Alors, ça reste théorique. Je voudrais qu'on arrive nous-mêmes à faire la découverte, les découvertes au sujet de Job, maintenant qu'on sait certaines choses. Puis, vous voyez que tout d'un coup, ça se précise que c'est de nous qu'il est question. Et que si on a le livre de Job, c'est pas pour avoir l'histoire d'un homme qui vivait après le déluge. Oui? Je ne dis pas qu'il ne savait pas que le diable existait. Mais la révélation pour les hommes a été progressive. Et c'est spécialement dans le livre de Job que nous apprenons que c'est Satan qui est derrière tous ces malheurs. Alors, le livre de Job nous donne une grande connaissance de l'adversaire, de celui qui s'oppose à Dieu. Et alors, évidemment, on pense que, enfin, moi je partage cette opinion en tout cas, que Moïse a écrit le Pentateuque. Enfin, je sais que les modernistes pense que ça ne vient pas de Moïse, enfin peu importe. Mais ces livres sont dans le canon des Écritures, donc nous les reconnaissons pour inspirés, et leur autorité pour nous, c'est l'autorité de Jésus. Jésus a reconnu tout l'Ancien Testament comme étant la parole de Dieu. Et il a reconnu la Genèse, par exemple, le récit de la chute, Jésus lui-même en a parlé. Quand il dit, au commencement, au sujet du divorce, il n'en était pas ainsi, n'est-ce pas ? Dieu les créa, homme et femme, ou mâle et femelle. Et il dit, ils ne seront plus deux, mais une seule chair, que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc, Jésus a cité ces textes du chapitre 2 de la Genèse. Donc, il les a revêtus de son autorité. Comme il a revêtu de son autorité l'histoire d'Abel. Il a parlé d'Abel. Comme il a revêtu de son autorité l'histoire de Noé et d'Abraham. Une autre question ? Sinon, on va rendre grâce et puis... Il y a le bord de l'eau. C'est une belle journée. On est prêt pour l'accueil de ceux qui viendront à 3 heures. Et... Vous partirez à quelle heure, mes amis ? Tout de suite. Alors... C'est pas qu'on aime vous voir partir, mais on va vous laisser partir. Parce qu'on vous aime et qu'on vous... Vous allez directement à Heurs ou vous arrêtez ? Montréal. Eh bien, nous avons été heureux de jouir de votre présence. Et puis, vous apporterez à nos amis d'Heurs nos messages fraternels. Et si Dieu le veut, donc, je confirme que je serai avec vous. Dieu notre Père, nous te remettons ta parole et nous te demandons vraiment qu'elle ait pu ce matin nous atteindre dans nos cordes sensibles et que nous aussi nous soyons assurés que nous avons un héritage que nous ne pouvons pas perdre. Nous savons que les pertes de Job ont été compensées par le double et tu veux aussi nous donner le double. Même si nous avons dû passer par certaines épreuves, ça a été peut-être nécessaire, mais cette épreuve de notre foi plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui toutefois est éprouvée par le feu, oh qu'elle soit trouvée tournée à ta louange, à ta gloire et à ton honneur, comme le furent les épreuves de Job, qui recevait tout au double. Nous avons un héritage qui ne peut pas se corrompre. Nous avons un héritage que nous ne pouvons pas perdre. Tu nous l'as dit ce matin. Si tu nous as ébranlés, si tu nous as bousculés par ta parole, ce n'est pas pour que nous doutions, mais c'est pour que nous soyons affermis. Définitivement sur le roc et que nous ne revenions pas toujours à ces questions qui montreraient que nous sommes encore ballottés par tout vent de doctrine. Alors qu'en Christ, nous avons les certitudes de ton amour, ô Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen.